Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Son œuvre compte une quinzaine de romans restés célèbres comme Oliver Twist, David Copperfield ou Les Aventures de Monsieur Pickwick. Mais si Charles Dickens est passé à la postérité, c'est aussi parce qu'il est l'un des grands témoins de transformation qui touchent l'Angleterre victorienne. Et au-delà de leur seule description, Dickens a surtout pris parti. Écrivain engagé, comme on dirait aujourd'hui, Dickens a été à bien des égards un visionnaire lorsqu'il décrit les ravages d'une révolution industrielle qui a ses gagnants et ses perdants. C'est lui qui a décrit, bien avant Zola, ces cohortes d'invisibles, d'ouvriers, de laissés pour compte, de miséreux et d'orphelins qui s'entassent dans des villes en pleine explosion. Au départ, pourtant, rien ne le prédestinait à devenir le grand écrivain de la pauvreté. Charles naît en 1812 dans une famille de la classe moyenne et sa petite enfance est plutôt heureuse. Mais un drame va le marquer au fer rouge. Son père, John Dickens, a tendance à dépenser sans compter, un peu trop sans compter même. En 1824, les difficultés s'accumulent. Charles a 12 ans, il adore l'école, mais ses parents l'obligent à en sortir pour travailler 10 heures par jour dans une fabrique de cirage où il colle des étiquettes pour gagner quelques shillings. Ça ne suffit pas. Et le père de John part en prison pour dette pendant de longs mois, jusqu'à ce qu'un héritage améliore la situation de la famille. Cette expérience de la pauvreté et du déclassement va marquer Dickens à jamais. Très jeune, à 17 ans, il se lance dans la vie active pour de bon, comme clerc de notaire d'abord, comme journaliste ensuite, dans la presse parlementaire. C'est à cette époque qu'il prend une habitude qu'il gardera toute sa vie. Il marche dans Londres des heures et des heures jusqu'à en connaître chaque pavé. Il observe et il note tout, vraiment tout. Le monde, les vêtements, les accents, les couleurs, les embarras des rues, l'état des chaussées et des égouts, la vie dans les ateliers, les pubs et les usines. Et il fait de Londres un personnage à part entière. Il connaît la ville et ses habitants comme sa poche. Tous ses habitants, même ceux qu'on ne voit pas, ceux dont personne ne parle, comme ces orphelins qu'on retrouve partout dans ses livres, confiés dans des institutions sans scrupules où tout est fait pour économiser quelques shillings sur leur dos en rognant sur leur nourriture et leur éducation. De tout ce qu'il découvre chaque jour, Dickens garde une conviction qu'il martèle sans cesse. Le sort qu'on réserve aux plus pauvres est effrayant, injuste, honteux, scandaleux et surtout absurde. La prison pour dette qu'il connaît bien est l'incarnation par excellence de cette absurdité. Comme ils sont incarcérés, les pauvres ne peuvent par définition pas travailler pour rembourser leurs créanciers. Une bonne cinquantaine d'années avant Kafka, Dickens creuse les raisons de cette absurdité et désigne un coupable. L'indifférence des plus riches, bien sûr, mais surtout le poids de la bureaucratie anglaise qu'il juge tatillonne et inefficace. Dickens ne supporte pas l'inefficacité chronique de l'État et de la ville de Londres, incapable de gérer l'explosion urbaine. Article après article, roman après roman, il se moque, avec une ironie dévastatrice qui sera sa marque de fabrique, des bureaucrates et de leurs chefs, plus souvent choisis pour leur rang social que pour leurs compétences. Dans un roman de 1857, La Petite Dorrit, Dickens s'amuse à imaginer un ministère des circonlocutions, qui évoque beaucoup la maison des fous dans Astérix ou les erreurs kafkaïennes de l'administration dans le film Brazil. Dickens critique un monde uniquement occupé à produire des règles qui ne résolvent rien et il se moque au passage du jargon administratif avec une férocité certes amusée mais bien cruelle. Dickens est moderne aussi dans le regard qu'il porte sur l'éducation, essentiel à ses yeux pour transformer le sort des plus pauvres. Et il ne se contente pas d'écrire sur la question, il agit. En 1846, avec la philanthrope Angela Burdett Coates, il fonde Urania Cottage, un établissement destiné à sortir de la rue celles qu'on appelle les femmes perdues, autrement dit les prostituées. Mais là où d'autres institutions parient sur la répression, la dureté et la honte morale, Dickens parie sur la lecture, l'écriture, la gestion du foyer et surtout l'apprentissage d'un métier pour aider ces femmes à s'en sortir. Moderne, Dickens l'est aussi dans le regard qu'il porte sur les États-Unis où il a voyagé plusieurs fois. Comme beaucoup d'Européens, Dickens était parti avec beaucoup d'idéalisme pour le Nouveau Monde. Il en revient nettement moins optimiste et il va beaucoup écrire pour dénoncer ce qu'il considère comme des crimes. De l'esclavage au sort réservé aux Amérindiens, en passant par la corruption des élites où déjà le poids des armes aux États-Unis, qu'il juge totalement déraisonnable. Au passage, Dickens proteste aussi contre le piratage de ses œuvres, publié sans son accord dans la presse américaine, et défend l'idée de copyright et des droits d'auteur, avec pas mal d'avance sur son temps. Mais Dickens n'est pas seulement visionnaire dans la lecture des transformations sociales de son époque, il est aussi moderne dans la forme. Amoureux du théâtre et de la scène, il entretient sa notoriété en organisant des tournées qui sont de véritables shows. Il se met en scène, porte ses textes avec une telle puissance, une telle conviction qu'il captive son public. Mais tout cela l'épuise. Un soir, après l'avoir entendu raconter la description d'un meurtre des pages de son roman « Oliver Twist », son fils Charlie le voit descendre épuisé de l'estrade et a cette phrase étonnante « Je n'ai jamais rien entendu de plus beau ». Mais ne le faites plus. Dickens avait un tempérament impétueux et il n'a jamais vraiment réussi à freiner. C'est peut-être ce qui a fait qu'il est mort relativement jeune, en 1870 à 58 ans, 5 ans après avoir publié son dernier roman complet, L'Ami commun. Une satire encore, autour de la Tamise cette fois, dont la saleté légendaire à l'époque lui sert à dénoncer, une dernière fois, l'incompétence des pouvoirs publics et la violence des relations humaines, mais toujours avec cet humour et cette ironie qui marquent toute son œuvre. Une œuvre, vous l'avez compris, toujours d'actualité.
Europe 1, historiquement vôtre.